Paris, 7h30. Le capot nervuré d'une Jaguar XF, dernier modèle, filait dans le bleu froid et métallique du périphérique parisien. Habillé de matériaux nobles, cuir blanc, loupe de noyer, aluminium brossé, l'habitacle respirait le luxe et le confort protecteur. Sur le siège arrière, des bagages en toile monogramme cohabitaient avec un sac de golf et un numéro du Figmag. « Tu es certaine de vouloir ouvrir ta boutique aujourd'hui ?» demanda à nouveau Raphaël. « Chérie !» s'écria Madeleine. « On en a déjà parlé plusieurs fois. »« On pourrait prolonger nos vacances, » insista-t-il. « Je pousse jusqu'à Deauville, on passe la nuit au Normandie et on déjeune demain avec mes parents. »«
T'entends, mais non.
En plus, tu as rendez-vous avec un client pour une visite de chantier. » « C'est toi qui décides, » capitula l'architecte en tournant boulevard Jourdan. D'Enfer Rochereau, Montparnasse, Raspail. La voiture traversa une bonne partie du 14e arrondissement avant de s'arrêter au 13, rue Campagne Première, devant une porte vert sombre. « Je passe te chercher ce soir à la boutique ?»«
Non,
je viens te rejoindre en moto. »« Tu vas te geler ?»«
Peut-être, mais j'adore ma Triomphe, » répondit-elle en l'embrassant.
Leur étreinte se prolongea jusqu'à ce que le klaxon d'un chauffeur de taxi pressé les sorte brutalement de leur cocon. Madeleine claqua la portière de la berline avant d'adresser un baiser d'adieu à son amoureux. Elle composa le code pour ouvrir la porte du Porsche qui donnait sur une cour arborée. Là, en rez-de-jardin, se trouvait l'appartement qu'elle louait depuis qu'elle habitait Paris.
« Il fait moins 15 là-dedans »
grelotta-t-elle en entrant dans le petit duplex typique des ateliers d'artistes qui s'étaient construits dans le quartier à la fin du 19e siècle. Elle alluma le chauffe-eau en grattant une allumette et mit sa bouilloire en marche pour se préparer un thé. L'atelier de peintre d'origine avait depuis longtemps fait place à un joli deux pièces disposant d'un salon, d'une petite cuisine et d'une chambre en mezzanine. Mais la hauteur de plafond, les larges verrières qui perçaient le mur principal et le parquet en bois peint rappelait la vocation artistique initiale et contribuait au charme et au cachet du lieu. Madeleine alluma TSF Jazz, vérifia que les radiateurs étaient poussés à fond et sirota son thé, se dandinant au rythme de la trompette de Louis Armstrong en attendant que l'appartement se réchauffe. Elle prit une douche éclair, sortit de la salle de bain en frissonnant et attrapa dans son placard un t-shirt thermolactyle, un jean et un gros pull en Shetland. Prête à partir, elle croqua dans un Kinder Bueno tout en enfilant un blouson de cuir et noua autour de son cou son écharpe la plus chaude. Il était à peine plus de 8h lorsqu'elle enfourcha la selle de sa moto jaune flamme. Son magasin était tout près, mais elle voulait éviter d'avoir à repasser par l'atelier lorsqu'elle rejoindrait Raphaël. Cheveux au vent, elle parcourut la petite centaine de mètres de cette rue qu'elle adorait. Ici, Rimbaud et Verlaine avaient composé des vers. Aragon et Elsa s'étaient aimés et Godard avait immortalisé la fin de son premier film. Cette scène si triste dans laquelle Jean-Paul Belmondo, à bout de souffle, s'écroule une balle dans le dos sous les yeux de sa fiancée américaine. Madeleine tourna boulevard Raspail et prit la rue de l'Ambre jusqu'au jardin extraordinaire. La boutique qui faisait sa fierté et qu'elle avait ouverte 2 ans auparavant. Elle remonta le rideau de fer avec appréhension. Jamais elle ne s'était absentée si longtemps. Durant ses vacances à New York, elle avait confié les rênes du magasin à Takumi, son apprenti japonais qui terminait sa formation à l'école des fleuristes de Paris. Lorsqu'elle pénétra dans le local, elle poussa un soupir de soulagement. Takumi avait suivi ses conseils à la lettre. Le jeune Asiatique s'était approvisionné la veille à Rungis et la pièce débordait de fleurs fraîches. Orchidées, tulipes blanches, lisses, poinsettia, hélébores, renoncules, mimosa, jonquille, violette, amaryllis. Le grand arbre de Noël qu'ils avaient décoré ensemble brillait de tous ses feux et des gerbes de gui et de houx pendaient au plafond. Rassurée, elle quitta son blouson pour enfiler son tablier, rassembla ses outils de travail, sécateur, arrosoir, binette, et s'attela avec bonheur aux tâches les plus urgentes, nettoyant les feuilles d'un ficus, rempotant une orchidée, taillant un bonsaï. Madeleine avait conçu son atelier floral comme un lieu magique et poétique.
une bulle propice à la rêverie. Un havre de paix sécurisant, loin du tumulte et de la violence de la ville. Quelle que soit la tristesse d'une journée, elle voulait que ses clients mettent leurs soucis entre parenthèses dès qu'ils franchissaient le seuil de sa boutique. Au moment de Noël, l'atmosphère de son jardin extraordinaire était particulièrement enchanteresse, renvoyant au parfum de l'enfance et aux traditions d'antan. Une fois les premiers soins terminés, la jeune femme sortit les sapins pour les installer contre la devanture et ouvrit sa boutique à 9h tapante. Elle sourit en voyant entrer son premier client. Dans la profession, un vieil adage disait que, si c'était un homme, la journée serait faste, puis se rembrunit devant sa demande. Il voulait faire livrer un bouquet à sa femme sans laisser de carte de visite. C'était le nouveau stratagème à la mode chez les maris jaloux. Envoyer des fleurs de façon anonyme pour guetter la réaction de leur épouse. Si une fois rentrée à la maison, celle-ci ne leur parlait pas du bouquet, ils en concluaient qu'elle avait un amant. L'homme régla sa commande et quitta le magasin en se désintéressant de la composition du bouquet. Madeleine commençait donc seule la confection florale, que Takumi irait livrer à partir de 10h dans une banque de la rue Boulard, lorsque le riff de Jumping Jack Flash retentit dans la boutique. La fleuriste fronça les sourcils. Le célèbre morceau des Rolling Stones provenait de la poche de son sac à dos, dans laquelle se trouvait le téléphone de ce Jonathan machin-chose. Elle hésita à décrocher, mais le temps qu'elle se décide, la sonnerie s'était interrompue. Le silence se fit pendant une minute, jusqu'à ce qu'un son bref et sourd indique que le correspondant avait laissé un message. Madeleine haussa les épaules. Elle n'allait quand même pas écouter un appel qui ne lui était pas destiné. Elle avait autre chose à faire. Et puis, elle s'en fichait bien de ce Jonathan machin truc, si goujat et si désagréable. Et puis, mue par une irrépressible curiosité, elle appuya sur l'écran tactile et colla le téléphone contre son oreille. Une voix grave et hésitante s'éleva dans l'appareil. Une Américaine, avec un léger accent italien, qui peinait à réprimer des sanglots.
Jonathan, c'est moi, c'est Francesca. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on se parle, il faut que... Je sais que je t'ai trahi. Je sais que tu ne comprends pas pourquoi j'ai tout gâché. Reviens, s'il te plaît. Fais-le pour Charlie et fais-le pour nous. Je t'aime. Tu n'oublieras pas, mais tu me pardonneras. Nous n'avons qu'une vie, Jonathan. Et nous sommes faits pour la passer ensemble et avoir d'autres enfants. Reprenons nos projets. Continuons comme avant. Sans toi, ce n'est pas la vie.
La voix de l'Italienne s'étrangla dans une tristesse infinie. Et le message s'arrêta. Pendant plusieurs secondes, Madeleine resta immobile, ébranlée par ce qu'elle venait d'entendre et saisie par la culpabilité. Ses bras étaient parcourus par la chair de poule. Elle frissonna, puis posa sur le comptoir le téléphone encore chargé de larmes, en se demandant ce qu'elle était supposée faire.